Aujourd'hui, nous allons parler de Rosh Hashanah. Et précisément de quel niveau nous sortons quitte du jugement qui s'opère ce jour-là dans le monde. Il faut comprendre que le jugement de Rosh Hashanah vient du fait que le monde revient à sa source. Il faut un petit peu dépasser le schéma que nous avons l'habitude de comprendre, qu'Akadosh Baruch Hu est assis et qu'il juge tous les êtres qui passent devant lui. C'est sûr, c'est vrai, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, le monde est jugé par rapport à ce qu'il était au départ, à ce qu'il aurait dû être, à la première pensée divine. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le monde revient, en fait, à sa source, à son premier degré. Et c'est à partir de ce premier degré, et je vous rappelle que ce premier degré, nous disent les Chachamim, « Ratza Kadosh Baruch Hu livro et haolam bemidat ha-din ». Étant donné que le premier degré du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde par l'attribut de rigueur, de din, mais c'est à cet attribut-là que nous revenons.
C'est des valeurs chesed ?
Pardon ?
C'est des valeurs chesed, le premier attribut ?
Non. Ratza Kadosh Baruch Hu livro et haolam bemidat ha-din. Kadosh Baruch Hu voulait créer le monde bemidat ha-din. Seulement après, il a vu sha'olam eino yachol itkayem, que le monde ne peut pas résister. Alors il a rajouté midat ha-rachamim. Mais ça ne change rien du tout, puisqu'au départ, c'est ce qu'il voulait. Donc, Rosh Hashanah, nous revenons à ce qu'il voulait. Il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Il voulait que ce soit comme ça, mais le monde avec sa faiblesse ne pouvait pas résister à cet attribut-là. Et donc à partir de ce moment-là, il a ajouté une autre mida qui est une mida de miséricorde pour que le monde existe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné sa rigueur. Sinon, ça voudrait dire que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu s'est trompé. Il a voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché, il a fait autre chose. Non. Il a tout simplement introduit une nouvelle notion qui est le temps. C'est ce qu'on appelle Midat HaRachamim. Et donc, il nous laisse le temps pour revenir à ce qu'il voulait au départ. Et au départ, je vous donc rappelle, c'est Midat HaDin. C'est la vérité absolue. Donc c'est une rigueur. C'est pas un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, ça va, on va faire comme ça, on va jouer un petit peu, on va adoucir, on va arrondir. Ça c'est déjà Midat HaRachamim, c'est déjà le temps. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, quand il voulait créer le monde, c'était Midat HaDin. D'ailleurs, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a une personne qui s'est dit « Moi, j'ai pas envie de jouer mon rôle d'homme comme ce qui s'est passé après, c'est-à-dire avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a rajouté comme arrondissement des angles. Moi, je veux être dans la mida du din. » Comment il s'appelle cet homme? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne voulait pas mida tarachamim, il voulait din. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand il est arrivé à ce degré, où on lui a arraché le cœur. Okay, Rabbi Akiva est mort de cette manière-là. On lui a brûlé le cœur et on lui a arraché la peau. Okay, c'est une mort très très difficile. Et ses élèves lui ont posé la question, « Rabbeinu, comment tu te laisses ?» Il dit, « Parce que toute ma vie, je voulais vivre dans cet attribut de rigueur, c'est-à-dire de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait dans l'absolu, pas après avoir fait les cadeaux qu'il nous a fait. » Moi, je veux vivre au véritable niveau de ce que l'homme est, comme Akadosh Baruch Hu l'a pensé. Pas évident. ça veut dire qu'il était encore loin de ça, et que Moshe Rabbeinu était encore plus loin que lui. C'est pour ça que même Moshe Rabbeinu ne comprenait pas la Torah de Rabbi Akiva. Et quand Moshe Rabbeinu a vu qu'il ne comprenait rien, il est commencé à tomber et à être dans une dépression, en fait, Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne peux pas comprendre cette Torah parce que toi, tu viens dans un monde qui est déjà après le tikkun, après la réparation. Tu es en train de commencer un nouveau monde de réparation. Donc toi, tu es bon par nature, tu es né bon. Vatere oto ki tovhu. Quand il est né, il y a marqué que le bon est arrivé. Mais Rabbi Akiva, lui, vient d'un monde de l'autre côté. Et pendant les premières 40 ans de sa vie, il était dans l'autre face de l'univers, c'est-à-dire la face cachée du mal. Et il a fait un switch dans sa vie et il est passé du côté du bien. Donc en réalité, Rabbi Akiva connaissait en fait et le monde des ténèbres qui a précédé et le monde de la lumière du tikkun qui venait après. Alors que Moshe ne connaissait que la moitié, que le monde de la réparation, que le monde du bien. Et donc Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu veux comprendre la Torah de Rabbi Akiva, il faut que tu repartes en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut que tu repartes en arrière? Non, non, il est né bien. Il est né bien. C'est pas grave. Il est né bien, sa nature est bonne. Non. Rabbi Akiva est né dans un monde où le tikkun n'a pas encore commencé. C'est lui qui va faire le travail pour apporter toute la lumière à ce côté des ténèbres. Donc Rabbi Akiva, quand il était petit, on lui disait, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Et je voudrais mordre des Talmidei Chachamim. Comme un âne mord les os jusqu'au bout. C'est-à-dire, je ne peux pas les voir. Ces religieux, ils me dégoûtent. Okay? C'est comme ça que Rabbi Akiva parlait quand il était jeune. Aviouli, Talmid Chacham, ven Shecheu Neshichat Chamor. Apportez-moi un sage, je veux le mordre comme on mord, comme un âne mord. Et qu'est-ce que c'est la morsure d'un âne? Jusqu'aux os. Donc il a fait un travail énorme. Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu vient d'un monde de bien, directement. Donc pour comprendre le monde de Rabbi Akiva, qu'est-ce que dit la Gemara? Lech le'achorecha. Va en arrière. Donc Moshe Rabbeinu, dans le premier sens du texte de la Gemara, c'est comme si on lui avait demandé « va t'asseoir derrière la classe, au fond de la classe ». Mais en fait, ce que je viens de vous enseigner, c'est que Moshe Rabbeinu était obligé de faire une marche arrière pour voir le film comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire le monde où le noir domine, chas v'shalom, pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout un travail. Donc je reviens à mon texte. Je reviens à notre cours. Rosh Hashanah, pourquoi ça s'appelle Yom Hadin? Pourquoi c'est le jour du jugement? Parce que c'est le début de quoi? Du monde. On revient comme au premier degré du monde. C'est-à-dire à quoi? À la première volonté divine qui était quoi? Les Rachamim ou le Din? Le Din, la rigueur. Donc c'est le jour où quoi? Où on se souvient de quoi en fait? De la création du monde qui est en réalité, au départ, le jour de la rigueur. Donc comment on va appeler ce jour-là dans vos marzorim de prière? Yom HaZikaron. Le jour où on se souvient que quoi? Que le monde, c'est pas « viens, on enjolive les choses, on va faire arrondir ». Akadosh Baruch Hu, il a une Mishnah Brura, c'est-à-dire une direction claire de ce qu'il veut de ce monde. Oui, c'est vrai, nous sommes un petit peu faibles, alors il a arrondi les angles et tout ça, mais... Ken? Alors, Yom HaKippurim, c'est Midat HaRachamim plus Nachol. C'est ça? Mais la véritable lumière, c'est Rosh Hashanah. Ori, c'est Rosh Hashanah, ma lumière. Les David Adonai, Ori Veishi. Ori, c'est Rosh Hashanah, ma lumière. La lumière, c'est or, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut au départ. C'est un axiome de base. C'est comme ça que le monde doit être. Tu peux pas? Je te donnerai du temps. Comment on appelle ça, je te donnerai du temps? Rachamim. Ça vient du mot rechem, c'est le ventre de la femme, la matrice. Qu'est-ce que fait le bébé dans le rechem? Il a du temps pour passer du monde des Neshamot au monde des humains. On lui donne 9 mois dans le ventre. Donc ça s'appelle rachamim. Encore une fois, chaque fois que vous entendrez le mot rachamim, comprenez que c'est du temps. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a laissé tomber sa midat hadin. Il nous fait des rachamim. Un exemple. Si le papa voit que son fils a fauté et que chas v'shalom, le papa veut lui balancer une pierre sur la tête. Un exemple. Stam. Il est cool ce papa. Maintenant, si le fils lui dit, écoute, papa, fais un effort, je suis quand même jeune, j'essaie de faire des choses, mais j'arrive pas. Maintenant, si le père dit, bon, ben, je te balance pas la pierre, qu'est-ce qu'il va dire le fils? Merci. Non. Il va dire, mon père, il sait pas ce qu'il fait. Donc, il n'a pas de conduite claire. Mais si le père, il a une combine, qu'est-ce qu'il fait? Il va moudre la pierre en poudre. Il va prendre toute la pierre qu'il devait lui balancer sur l'enfant. Il n'a pas laissé tomber sa colère. C'est-à-dire, il a une vision claire des choses. Tu es en train de fauter, tu mérites une pierre. Mais au lieu de la recevoir comme elle est maintenant, je vais la rendre poussière. C'est la même pierre. Et je vais te balancer des morceaux de poussière de temps en temps. C'est plus agréable. Là, l'enfant, il se dit, mon père, il a une direction dans la vie qui est très nette. Il n'a même pas abandonné sa première idée. Il a trouvé juste une combine pour se mettre à mon niveau. Mais moi, si je suis intelligent, maintenant c'est l'enfant, à chaque fois que je reçois un petit peu ces petites poussières, à quoi je dois penser ? À la pierre que j'aurais dû recevoir, mais comme je suis faible... Eh bien, on a transformé cette pierre en poussière. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne s'arrête jamais et ne change jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est à notre niveau que les choses changent. Quel?
Il y a quelque chose, si j'ai bien compris. Il y a le dîme. Donc, normalement, on devait être créé de façon figée et pas évoluer dans le temps. On était créé.
Non? Pourquoi tu dis que dîme, c'est figé?
Parce que
la notion de temps.
Nachon.
Donc en fait, ce que tu viens de comprendre, c'est que la mida de Rachamim permet une évolution des choses. Nachon. Tout à fait.
Quel? C'est quand même lui qui a le contrôle sur tout ce qui va se passer.
Tout à fait.
Qui a créé d'abord, on va dire, cette complexité dans le monde, qui a amené après.
Tout à fait. Donc, pourquoi il a fait ça? Pour donner la place à ta question et à tout ce que tu es. C'est-à-dire qu'en fait, il joue notre jeu. Comment on dit ça dans le langage de la Torah? Dibra Torah kelshon bnei Adam. La Torah, elle parle un langage humain, alors qu'elle vient de Dieu. Mais elle se met à notre portée, elle nous donne la possibilité d'être, elle nous met dans une arène. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un jeu, entre guillemets, il nous dit « allez jouer ». C'est sûr que je domine tout, mais je vous laisse la place de croire, d'évoluer, de choisir. Tout ça, c'est dans mon jeu à moi, dans mon rêve à moi. Mais vous êtes des acteurs. Et vous allez avoir vraiment l'impression que vous faites tout. Tu as raison. Quel?
Je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, mais dans la manière dont vous avez raconté le fait qu'il voulait d'abord le dîn et qu'il a rajouté le rachamim, parce qu'il a senti qu'on n'était pas capable. Dans ce cas-là, ça donne l'impression que... comment est-ce qu'il peut créer une créature sans savoir au préalable que le dîn ne suffira pas?
Là, il le sait. Il le sait. Tu poses la même question que lui. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu sait tout, depuis le début jusqu'à la fin. Mais pour nous, c'est une leçon. Si au départ, il crée Midat HaDin, le monde avec Midat HaDin, et qu'après, il me rajoute quelque chose, moi, comme élève intelligent, à quoi je dois aspirer? Amidat Adin, parce que c'est en réalité la vérité du début. Alors c'est vrai qu'il s'est mis à ma portée à un moment donné, mais moi en tant qu'élève qui veut savoir la vérité absolue, bien, plus je vais aller, plus je vais revenir vers Midat Din. Et regardez, au niveau de la halakha, aujourd'hui la halakha est comme Bet Hillel ou Bet Shammai? Bet Hillel, qui est Rachamim ou Din. Et on va bientôt, à la fin des temps, revenir comme Bet Shammai, qui est Midata Din. Maintenant vous comprenez pourquoi. Bevadai. Ça veut dire que Bet Shammai, qu'est-ce qu'il voulait lui? Les choses comme au départ. Pas au niveau de l'homme. Laisse-nous tomber, nous on est des faibles, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux jouer dans la cour des grands avec la vérité d'Akadosh Baruch Hu comme lui la veut. Eh bien, à la fin des temps, comme on est en train de se rapprocher, en fait, de revenir vers cette source, la halakha sera à la fin comme Bet Shammai. Alors que pour l'instant, pendant tout le temps de la vie, elle était comme Bet Hillel parce qu'on est encore faible. Est-ce que vous comprenez cette notion? Et les deux ont raison. Alors ça dépend de quoi en fait? Tout dépend de quoi dans notre monde? Du temps. Ken?
Est-ce que ça veut dire que dans les mitzvot, nous accomplissons quotidiennement, est-ce qu'il est bon d'ajouter des chumrot, etc. ou il faut rester avec Bet Hillel?
Ça dépend qui tu es. Et même si tu rajoutes des chumrot, elles ne t'incombent qu'à toi. Tu n'as pas le droit de les rajouter sur les autres. Tu peux, si tu es, c'est pour ça, si juste toi tu es faible dans ta vie et sans ces nedarim, sans ces chumrot, tu sens que tu vas tomber, eh bien la Torah te permet à toi d'aller un petit peu plus loin, de te mettre des gardes, des gardiens. Mais ne va pas confondre ça avec la halakha. Et la plupart du temps, les gens te donnent des halakhot qui ne sont pas la halakha, qui sont déjà des chumrot. Alors que tous les gens dans la rue ne sont pas à ce niveau-là. Alors arrête d'apporter ce que toi tu t'es pris sur toi et de le transmettre d'une manière erronée aux gens. Ken?
Et à votre avis, est-ce que ce temps dont vous parlez, est-ce qu'il dépend de nos actions ou est-ce qu'il est défini au préalable et on risque par exemple de rater le coche si on n'arrive pas au bon moment à arriver à ce niveau-là?
Alors à mon avis, Yoel, pense, ouais. Le prophète, hein, à mon avis, Ken, on ne risque jamais de rater le code, puisqu'en réalité, Akadosh Baruch Hu ne peut pas rater sa création. Donc il y a un temps limite où toutes les choses vont se mettre en place d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que nous sommes limités dans cet espace-temps, dans ce grand jeu, dans cette arène. Et comme dit la Gemara dans Sanhedrin 96, ce temps-là, c'est 6000 ans. Enlever des 6000 ans, 272 heures ou jours ou années. Erev, puisque la lumière du Shabbat, ça commence à Erev Shabbat. Donc si Shabbat c'est l'an 6000, Erev Shabbat, là où le Shabbat rentre, c'est 6000 moins Erev. Erev c'est Ein Resh Bet, 272. Ça fait combien 6000 moins 272?
5728.
C'est bon, le compte est bon?
5728,
c'est quoi?
1948,
non, 5708, c'est 1948. C'est, en fait, Yafemot, la guerre des six jours. Donc, à partir de la guerre des six jours, nous sommes dans Erev Shabbat. Nous sommes rentrés déjà dans la... Vous êtes normalement censé déjà avoir fini votre mikvé. Sinon, vite.
Et par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait comparer Hachem à un sculpteur qui aurait pris une moitié de sa brute et qui
non,
pouvait...
non, non. Parce que le sculpteur ne prend qu'une matière qui existe. Kadosh Baruch Hu, lui, crée cette matière. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'en hébreu, il n'y a pas de création à part Dieu. En français, tu peux dire un créateur de mode. Quand on rentre dans mon studio de peinture, on me dit « Ah, vous êtes un créateur ». Je dis « Non, je ne suis pas un créateur ». Un créateur, c'est quelqu'un qui crée à partir de rien. Moi, je prends une matière et je fais quelque chose. Ce n'est pas pareil.
Donc, revenir au dit, c'est même se revenir en...
C'est revenir à la première apparition de la matière. Exactement.
Est-ce qu'on est obligé de dire que c'est une création à partir de rien?
Non. Dans notre langage humain, on dit ex nihilo, yesh me ein. Mais le rien, le ein duquel nous parlons, ça ne veut pas dire un rien. C'est encore une notion de Kabbalah que mon maître est beaucoup plus à même que moi d'en parler. Donc le ein, le rien en question, c'est pas un rien. C'est un plein de quelque chose que je ne connais pas moi. Alors pour moi, il s'appelle rien. Mais en fait, c'est tout.
Qu'est-ce qui explique selon vous que le Shabbat commence à regarder six jours et non pas Yom HaTzmaout?
Le Shabbat doit commencer à partir du moment où tu touches le point ultime de ta vie. Yom HaTzmaout, on est rentré sur la terre d'Israël, mais on n'a pas touché encore le point culminant qui, lui, est apparu seulement à la guerre des six jours. Et le point culminant n'étant pas encore touché, on n'est pas encore véritablement dans le Shabbat. Quand on rentrera dans le Shabbat réellement, il y aura déjà le Beth Amikdash. Donc c'est un accès petit à petit. Ça, d'ailleurs, ça s'inscrit dans le Lech Lecha de Abraham. Le Lech Lecha, ce n'est pas directement. On n'arrive pas directement. On arrive petit à petit. Et dans notre vie, c'est pareil. Tout doucement. Là, peut-être vous êtes arrivé dans votre vie à Eretz Israël, dans votre vie. Mais à un moment donné, vous allez devoir arriver à votre Jérusalem, à vous, dans votre vie. Et à la fin de votre vie, je vous souhaite d'arriver à votre Beth Amikdash intérieur. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur de votre être aussi. Donc c'est une évolution permanente pour arriver vers quoi? Vers la volonté première de Dieu. Comment on dit volonté en hébreu? Donc c'est la racine du mot Eretz. Donc El Haaretz Asher Areka, vers la volonté première. Donc qu'est-ce que c'est le Ratzon? Ratza Kadosh Baruch Hu Livro Et Haolam Bemidat HaDin. Donc le véritable Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Midat HaDin. Et pour l'instant, on est dans Midat HaRachamim. Et tout doucement, qu'est-ce qui va se passer en fait? Puisque je vous ai dit que le Rachamim, c'est le temps, donc vous allez sentir que le temps va se rétrécir. Et donc si vous sentez aujourd'hui que le temps passe plus vite, alors que la montre c'est la même, c'est parce que nous revenons vers un monde qui va perdre la notion du temps. Donc tout va devenir très 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 rapide. Vous avez compris? Je vais vous dessiner une pyramide. Cette pyramide, imaginez-vous que le sommet de la pyramide, ce soit l'éternité. Qu'est-ce qui se passe dans l'éternité? Tout est un, on est d'accord? Mais quand je descends dans ce monde, je descends sur deux champs. Donc je m'éloigne de ce point. Et je suis en train de créer en fait un point A et un point B. On est d'accord? Cette notion-là, c'est le temps. Plus nous revenons vers Akadosh Baruch Hu au niveau de notre histoire, plus ce temps va se diminuer. Regardez bien, ici il y a une très grande distance, donc les causes et les effets sont loin l'un de l'autre. Plus je vais remonter vers le 1, plus la distance va se diminuer entre la cause et l'effet, jusqu'au moment où tout va être en même temps. C'est-à-dire une femme va être enceinte et va accoucher en même temps. Les gens vont écraser les raisins, il va sortir déjà la bouteille de vin en même temps. Les gens vont labourer un champ et vont déjà cueillir en même temps. Ce sont des prophéties, à mon avis. Okay? À mon avis, hein, c'était le jeu de mots. Exactement. Donc, les Yemot HaMashiach, au moment où on se rapproche, où Akadosh Baruch Hu nous envoie déjà cette grande lumière, il n'y a plus beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il n'y a plus de possibilité, en fait, même de changer d'avis. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus convertir les Yemot HaMashiach. Il n'y aura plus de conversion, puisque ça y est, on est déjà au bout du temps. Il y aura encore une autre forme de choses, mais ce n'est pas le but du cours. Ken.
Je n'ai pas très bien compris. En fait, vous avez dit qu'aujourd'hui, on écoutait Beit Hillel.
Ken. On
écoutait Midat HaRachamim.
Nakhon. Justement, parce qu'il a raison aussi. Et il y a des moments dans notre histoire où on est obligé de... Exactement. D'aller jusqu'au bout de la chose.
Mais elle existe toujours, cette
Ben vadaï qu'elle existe. C'est pas parce que toi tu ne l'appliques pas qu'elle n'existe pas. C'est une vérité. Elle attend juste son temps.
Elle n'a pas été remplacée en fait.
Exactement.
Pourquoi certaines choses et pas d'autres?
Parce qu'il y a des discussions dans ce monde où, lorsqu'on dépasse un certain seuil, il faut dire stop. Là, ça va être trop dangereux. Donc revenons à l'essence. D'accord ? Et l'essence, c'est Midat Hadin. Donc il y a des moments dans ta vie où tu ne peux pas jouer toujours. Bon, allez, laisse-lui encore un petit peu, fais ci, fais ça. Quand le temps arrive, c'est le temps. Par exemple, l'entrée du Shabbat, tu joues un petit peu, lui, il fait rentrer Shabbat maintenant, toi dans 10 minutes, lui dans 20 minutes. Mais quand c'est rentré, c'est fini. C'est Midat Hadin. D'accord ? Donc Midat Hadin, c'est une vérité absolue qui est difficile à concevoir par les hommes. Parce qu'on n'arrive pas à donner un point précis à cette Midat Hadin. Parce que nous sommes dans un monde de deux. Alors que Midat Hadin, elle est dans le monde de un.
Justement, ceux qui s'obligent à faire des courbes, à faire des choses juste au bout, c'est au maximum.
C'est ça, mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des faiblesses, parce qu'ils savent que s'ils ne donnent pas cette Midat Hadin, ils vont tomber et ça va partir en cacahuète.
Okay. Mais on dit toujours de favoriser la main droite alors d'acheter la bonté.
Justement, parce que la main droite, elle va rajouter en fait, elle va bonifier, elle va adoucir notre faiblesse. Parce que Midat Hadin, si le monde était que sur Midat Hadin, qu'est-ce qui se passerait? Tout le monde serait mort. Il a tout compris. Tu dis la shonara, qu'est-ce qui se passe? Ta langue, elle s'arrache immédiatement. Ben oui, elle est remplie de vermine, remplie de machin, directement. Tu allumes, je sais pas moi, un feu Shabbat, ta main se paralyse. Tu voles, là, ta main est coupée, on t'arrache. Mais on ne peut pas vivre de cette manière-là. Alors on nous dit, tant que nous sommes dans un monde où nous sommes encore dans cette faiblesse, il faut que la main droite domine la main gauche. Encore une fois, j'ai dit ça dépend du niveau de l'homme. C'est pour ça que Rabbi Akiva, lui, il pouvait choisir. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a choisi. Alors qu'il a fini sa vie en disant « Ana bechavivu tatal yamilta ». Ken, tu connais ce passage? Ken, c'est-à-dire moi, j'ai fait toute ma vie des efforts pour, en fait, dévoiler ce din. Mais sans brûler le monde. D'ailleurs, quand il est sorti avec son fils de la caverne, vous comprenez maintenant pourquoi chaque chose qu'il voyait, il brûlait immédiatement. C'est quoi ça? C'est Midata? Din, c'est la vérité absolue. Tu dois mourir. Alors le monde, Akadosh Baruch Hu, qui appartient au monde de la vie, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es sorti pour détruire le monde, repars dans ta caverne. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais moi je fais ça pour toi. Il est d'accord, mais si tu me fais ça pour moi, sache que les gens ne sont pas au même niveau que toi. Respecte un petit peu le temps. C'est d'ailleurs les gens qui sont impatients. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas la patience des gens qui pensent moins vite qu'eux. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui sont tellement intelligents, leur intelligence va tellement vite, que quand tu vois en face de toi quelqu'un qui traîne et qui ne comprend pas Misken, il a l'air d'un âne comme ça à côté, toi à côté, au lieu de l'aider, tu dis, mais tu es un bourricot, tu ne comprends pas. Et non, je ne comprends pas, je suis un petit peu plus lent que toi, tu peux me respecter? Ça, c'est difficile, c'est ça l'orgueil. C'est-à-dire, faites attention, il y a des gens qui, pour faire sortir une voiture d'un garage, il leur faut 200 manœuvres. Toi, quand tu regardes ça, tu es là, tu te dis, Misken, mais comment il a eu son permis? Comment elle a eu son permis? Vous rigolez plus hein, quand je dis elle. Hein? Tiens, alors il faut savoir que Akadosh Baruch Hu veut un monde avec cette patience-là.
Non, je ne comprends pas. Dans son essence, Hachem, il a aussi la bonté et aussi le din. Alors pourquoi le but, c'est juste le din?
Parce que le din, c'est une vérité absolue, même s'il a tout, tu as raison. Mais c'est tellement pointu, c'est-à-dire que les causes et les résultats se touchent. Et c'est ça ce qu'on appelle le din. C'est que c'est immédiat. Hara veyoledet yardav. Comme j'ai cité tout à l'heure les prophètes. C'est-à-dire une femme enceinte qui accouche. Ce n'est pas de Yoël, hein, c'est une prophétie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Venigash choresh bakotzer, vedorech anavim bemoshech hazara. Je vous cite des versets. Ken? Tout ça, c'est immédiat. Donc, c'est immédiatement, en hébreu, miyad, c'est la même racine. C'est parce que chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui n'existe pas? Le temps. D'accord? Le temps n'existe pas chez lui. Donc, il ne change pas. Il n'est pas soumis au changement. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses changer? C'est parce que tu es lié au temps. C'est pour ça qu'en hébreu, les shanot, changer, vient du mot shana, shnia. C'est tout. C'est un changement. Et pour changer, il faut deux points. Donc, quelle est la plus petite mesure du temps? La seconde. Donc, il faut deux points. En hébreu, shnia, shnai. Pourquoi la seconde? Exactement. Le temps, c'est un des voiles ou un des filtres par rapport à l'infini. Nachon.
Ok. Vous avez dit que l'Akadash Baruch Hu, il n'y a pas de temps.
Nachon.
Mais c'est écrit, je crois, c'est dans la Gemara, on dit qu'en gros, un jour, c'est considéré.
Nachon, pour nous. Pour nous. Pour nos comptes à nous.
Oui, mais on dit que pour nous, c'est un jour.
Nachon. C'est-à-dire qu'il y a elef shanim à tes yeux, en nous regardant à nous, pas chez toi. Tout est par rapport à comment il nous regarde à nous, pas chez lui. D'accord? Quand je te regarde, je sais que un jour pour moi, ce que j'ai marqué un jour, c'est 1000 ans chez toi. Mais c'est toujours pour toi. Moi, j'ai ni un jour, ni 1000 ans, ni rien du tout. Je suis en dehors de tout ça. Sinon, j'aurais été moi-même, en tant que créateur, limité. Chas v'shalom. Tu ne peux pas dire que Dieu est limité de quoi que ce soit. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans rien du tout. Pour faire en sorte que le monde revienne à une valeur qui est beaucoup plus proche que lui.
Donc pour vous, après la fin des temps, il y aura encore quelque chose.
Pour moi. Quand on dit la fin des temps, c'est la fin des temps que vous connaissez. C'est le début d'un autre temps. D'accord? D'une autre dimension, on va dire, plus exactement.
Après, on passera à
Midatayim.
D'accord. Il a testé avec Adam Arishon.
Le quoi? Adam Arishon, le jour où il a été créé, c'est le même jour où il a fauté. Donc en fait, tout se passe dans le sixième jour de la création, qui correspond au sixième millénaire.
Il a été recommandé...
Le même jour. Et il a fait Teshuvah le même jour. Et il est rentré dans le Shabbat, après cette Teshuvah-là, il a cru qu'il était mort. Et c'est tout ça, ça s'est passé juste à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire au niveau du temps, maintenant. Vous avez compris qu'on est aujourd'hui au même niveau que là où Adam Rishon a fauté. Donc nous avons la possibilité maintenant de faire Teshuvah.
C'est quoi notre
faute? C'est tout simplement continuer ce qu'il a fait. C'est-à-dire mettre ton cerveau intelligent humain avant la vie. Est-ce que tu comprends et c'est pour ça que tu fais? Ou bien est-ce que d'abord tu vis et tu cherches à comprendre? Et comme Adam Rishon a été jeté du jardin d'Éden, nous aujourd'hui, à la fin donc de ce sixième millénaire, on est censé revenir au Gan Eden. C'est pour ça que vous êtes revenus en Israël. C'est maintenant qu'on revient. C'est maintenant le retour. Allez à l'aéroport, toutes les semaines il y a des avions qui arrivent. Pourquoi? Parce que tous les morceaux d'Adam Rishon reviennent au Gan Eden. Il y a un autre Olam Haba. Chaque Olam Haba, il a un autre Olam Haba qui est beaucoup plus profond que lui. C'est quoi ton Olam Haba maintenant, toi? Ta Neshama. C'est quoi ton Olam Hazé? Ton corps. Maintenant, je prends que ta Neshama. Est-ce que ta Neshama, elle a un niveau beaucoup plus profond? Oui. Alors, c'est son Olam Haba, elle. Tu comprends?
Elle n'a plus la notion de temps.
Nahon. Exactement. Donc, la Neshama, en réalité, elle est hors du temps. Donc, elle est éternelle. Que le Olam Hazé vive au même niveau que le Olam Haba. C'est-à-dire que toi-même, au niveau de ton physique corporel, tu vives éternellement. Donc la mort est un scandale. C'est une honte. C'est comme dit le prophète Ishaïa, Vecherpat Amo Yassir. Donc le fait qu'on meure aujourd'hui, c'est un problème. On n'aurait pas dû mourir. Si on meurt, c'est que notre corps n'est pas au même niveau que la Neshama qui est intemporelle.
Quel est l'intérêt de vivre si c'est
c'est une éternité.
Ah, toi tu dis on s'ennuie, c'est ça?
Pas qu'on s'ennuie, mais il n'y a plus de notion de temps.
Parce qu'il y a d'autres notions. Comme les chachamim, yoshvim, venehenim, miziv hashrina. Si un jour tu te délectes de la shrina, tu vas venir me dire, oublie le temps, je kiffe trop. D'ailleurs, quand tu kiffes vraiment, qu'est-ce qui se passe? Exactement, le temps passe trop vite. Alors que quand tu souffres, le temps ne marche pas. Les gens qui comprennent rien dans un examen, ils sont tout le temps avec la montre, miskenim. Ceux qui comprennent le sujet, quoi, c'est déjà fini? Mince. C'est la même chose. Ben, tout simplement parce que quand tu ne fais rien et qu'il n'y a pas de tochen, il n'y a pas de fond dans ce que tu fais, tu t'ennuies, donc c'est lourd. Et le temps, ça pèse. Quand on me dit, par exemple, dans un cours, waouh, il ne reste plus qu'un quart d'heure, ça veut dire que les élèves ont kiffé. Je suis content. Mais si le type, il est, quand est-ce que ça se termine déjà, j'en peux plus, c'est un problème, il faut que je me pose des questions.
Comme le corps en action, c'est pareil. Quand le corps il souffle, le temps il sera long.
Exactement. Le temps du corps est plus long. Exactement. C'est pour ça qu'en réalité, le véritable exercice que nous devons faire dans ce monde, c'est d'amener le corps à vivre au même niveau que la Neshama.
Mais ça, c'est pas vraiment possible.
C'est possible. C'est possible, il y a eu 5 personnages bibliques qui sont arrivés à ce niveau-là et qui vivent aujourd'hui même dans une autre dimension avec leur corps. Okay. L'un d'entre eux, c'est Eliyahu Hanavi, le deuxième, c'est Hanor, le troisième, c'est Amram. Cherchez les deux autres. Okay. Donc, il faut savoir qu'il y arrive, on peut arriver à ça. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Le corps ne devient plus un obstacle, une chatzitsa. Il n'y a plus de chatzitsa, il n'y a plus de chutz. Chatzitsa, ça vient du mot extérieur, chutz. Tout devient pnim.
Il faut manger.
Nahon, tu peux manger d'une autre manière. Et Moshe Rabbeinu, comment il a mangé? Alors, comment il a fait? Maim, lechem lo achal, ou maim lo shata. Alors, de quoi il s'est nourri? D'amour et d'eau fraîche? Même pas. Hein? Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te nourrir d'un autre degré. Yom HaKippurim. C'est un jour de jeûne, du corps. Mais la Neshama, elle jeûne. Au contraire, elle est en pleine jouissance. Ta Neshama, Yom HaKippurim, elle est en train de manger comme jamais elle a mangé. Il n'y a que ton corps qui a faim. Ve'initem et nafshotechem, nefesh, c'est que ton corps animal. Ta Neshama, Yom HaKippurim, elle se dit, mais donne-moi encore une journée comme ça. Ton corps, lui, il n'en peut plus, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un dialogue entre eux. Bon, ça va, je t'ai donné un kiff, j'ai pris une place à la synagogue, je suis venu m'installer à côté de toi. Toi, tu kiffes, mais moi, oh hein? D'accord? Ken?
Est-ce que Amalek a réussi le même tour de...
Il a fait mode. Amalek, c'est celui qui fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, il fait la séparation entre le corps et la Neshama. Et c'est pour ça qu'il coupe entre le haut niveau et le bas niveau, entre le niveau intérieur et le niveau extérieur. Asher karcha baderech. C'est ça qui t'a refroidi. Kiyad alkes ya. Il a transformé le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Il ne reste plus que Yud He. Et il est où le Vav He? Il a séparé entre les deux. C'est ça, Amalek.
C'est une bonne explication. J'ai pas bien compris.
Tu n'as pas compris? Non. Lui, il a compris. Regarde, maintenant, il est devenu dans une jouissance totale. C'est-à-dire, le nom de Dieu, qui est l'expression de la vie. Yud, He, Vav et He. Dans le verset qui parle de Amalek, il y a marqué Kiyad Alkes Ya, Milchama, Lachem, Ba'amalek, Midor, Dor. Comme ça dit le verset. Je te traduis. Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main dans deux lettres de cette vie, du nom de Dieu. C'est-à-dire, il va cacher ou le Yud et le He, ou le Vav et le He. Toujours est-il que ça coupe le nom en deux. Or, le Yud et le He, c'est l'intérieur, et le Vav et le He, c'est l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il fait Amalek, en fait? Il sépare ton âme de ton corps.
D'accord.
Non, c'est un jeu de mots.
Alors ça, j'ai compris. Donc, par rapport à ce qu'il nous fait à nous.
Oui.
Et par rapport au fait qu'il revient sans cesse comme s'il...
C'est justement, c'est ça ton exercice. C'est-à-dire, on te fait passer toujours le même examen. Est-ce que tu es capable de vivre corps et âme en même temps, ou chaque fois tu tombes dans le piège, on sépare ton corps de ton âme? C'est tout. Ne crois pas que c'est une force. Ken, on a trop de dessins en tête. On a l'impression que le Satan, c'est... avec des cornes et une fourche du Club Med. C'est possible que tu le trouves au Club Med, mais bon.
Donc il a pris le monde à main d'épée.
Exactement. Il sépare en fait. Il dit à Dieu, reste en haut, laisse-nous vivre en bas tranquille, on n'a pas besoin de tes valeurs. Lâche-nous la grappe. Ken.
C'est quoi le problème d'être que âme?
Le problème d'être
que âme.
Que âme. Ah, que âme en français, je croyais âme en hébreu. Et le problème, c'est d'être des âmes sans corps. Kadosh Baruch Hu, il a créé des corps. Il n'a pas créé que des âmes. Les âmes, s'il voulait, il était tranquille avec les Neshamot. Pourquoi il t'a fait venir sur terre? C'est pas péché. C'est ça le problème des religieux. Les religieux, malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent? Que le corps ne vaut rien. C'est pas vrai. Chas v'chalila, c'est pas ce que la Torah, elle dit. Si le corps ne valait rien, mets-le dans un sac plastique poubelle et jette-le. C'est fini. La Neshama, elle est toujours vivante. C'est pas vrai. Faites très attention à vos corps. Vous avez une mitzvah de faire attention à votre corps. Parce que c'est une enveloppe qui n'est pas moins Kodesh que la Neshama. C'est lui qui a créé les deux. Attention. Il n'a pas moins créé le corps que l'âme. Donc tu dois faire attention à ton corps et à ton âme. C'est ça toute la Torah du Machon Meir Rabotai. C'est que le peuple d'Israël n'est pas juste une vapeur à étudier la Torah n'importe où dans le monde. Il lui faut un corps national, c'est la terre d'Israël. C'est pour ça que la Torah donne des frontières à cette Torah, la terre d'Israël. Pourquoi donner des frontières? Si la Torah était une religion, je n'ai pas besoin de frontières. Je peux faire ma religion à Tombouctou. Non, c'est parce que l'Aneshama a besoin d'un corps. Et le corps de la nation, c'est la terre d'Israël. Donc attention à séparer le corps et l'âme. Ça, c'est chas v'shalom de la religion. Et la religion, ce n'est pas du judaïsme. Il fait la religion.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'Amalek, il a volé la chair?
Non. Amalek, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'il réussit, Akadosh Baruch Hu lui dit, Chazak ou Baruch, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. C'est l'autre qui est un naze. Donc il faut qu'il revienne un petit peu à ses valeurs, c'est tout. Quand tu as battu Amalek, qu'est-ce qui vient? Il te serre la main, il te dit « Chazak, moi j'étais envoyé comme un ange juste pour t'embêter, mais je vois que tu as réussi. » Exterminer mitachat hashamayim, sous le ciel. Il faut faire attention au verset. Ça veut dire qu'au-dessus du ciel, il n'y a rien à enlever.
C'est ton allié même en fait.
Exactement. C'est ton allié en fait. C'est... Quand tu veux gagner un combat, on va te mettre un ennemi à ta hauteur ou pas? Les fachot à ta même force. Sinon, ça sert à quoi? Un champion du monde, il fait 120 kilos. Misken, tu lui mets un poulet rôti à côté de lui qui fait 40 kilos. Ça sert à rien. Viens, on te met quelqu'un en même gabarit que toi, même force que toi. Donc, Amalek, c'est l'antithèse d'Israël. C'est le même gabarit dans le mal. Mais c'est aussi une création de Dieu. C'est pas qu'il y a... On n'est pas dans les dessins animés japonais, les forces des ténèbres contre les forces de la lumière. Il faut arrêter avec tous ces Rita Repulsa et tout ça.
C'est pas ça, c'est est-ce qu'il n'avait pas un libre arbitre pour prendre le Vav et le HM?
Non, ce n'est pas une question de libre arbitre. C'est pas une question. C'est toi-même, tu peux le faire tout seul. À chaque fois que tu dis à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi faire ma petite bêtise maintenant. Sors un petit peu, laisse-moi tranquille, j'ai envie de fauter. Tu fais toi la même chose. Tu sépares les deux degrés, c'est tout. Le Hari Akadosh nous dit que quand un homme faute, sa Neshama, elle sort de lui. Donc qui est resté maintenant? Que la partie corporelle. C'est exactement pareil. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Bayom Ahouye Adonai Echad ou Shmo Echad. C'est ça qu'on veut arriver à être. C'est que tout soit un dans une seule unité, corps et âme. Et pas par hasard que c'est cette expression, la corps et âme, je me suis donné. Aujourd'hui, si tu te dis, moi, je ne me suis donné que âme, il est où ton corps? Il y a un problème. Un jour, j'étais en train de donner un cours à Jérusalem, dans une Hanouka de Bait, à Bait Vagan, et pendant le cours, à la fin du cours, c'était en soirée, un rabbin de France, un grand rabbin de France arrive, Et il rentre dans le cours et je termine mes paroles. Et avant que je termine mes paroles, il me fait comme ça. Je lui dis, Kvod Harav, oui. Il me dit, vous savez que... Parce que j'ai parlé de l'importance de venir habiter ici. Alors il me dit, vous savez que nous qui vivons encore en France, nous avons notre cœur là-bas, notre corps là-bas, mais notre cœur est ici. Je lui dis, monsieur, vous êtes un grand rabbin. Ça s'appelle de la schizophrénie. Il faut que votre corps et votre cœur soient au même endroit. Ça suffit. Vous n'êtes pas malade. Alors faites en sorte que votre cœur rejoigne votre corps. Ce serait beaucoup plus normal. Arrêtez de vivre. Vous savez comment ça s'appelle cette maladie ? Bipolarité. Shem Yirachem. Que Dieu nous préserve. On n'est pas bipolaire, nous, on est Eretz Israël, corps et Neshama.
S'il n'y a plus de rave en France, de notre part, comment on va...
Qui est-ce qui va... Oh là là,
c'est... vrai,
comment on va faire ici. Comment on va faire Mais c'est fini. Tout Akadosh Baruch Hu, Ken, il nous donne une Torah avec sa volonté à lui et ce qu'il veut. Toi et moi, on ne sait pas ce qui est bon. On est obligé de voir dans la Torah, n'est-ce pas ? Donc la Torah, elle nous dit ce qui est bon. Et elle nous dit, long, large, en travers, venez habiter, hériter cette terre, parce que c'est là où je me dévoile. Qu'est-ce que tu me racontes, des histoires de un ou l'autre, ou trois ? Et Baruch HaShem, aujourd'hui, c'est le cas. Toute la Torah est revenue sur la terre, il ne reste plus rien. Quel ?
Celui qui étudie en dehors de la terre d'Israël, il est dans le péché.
Il y a un problème, oui, un grand problème. C'est pas facile. C'est un grand, grand problème. Les Chachamim nous disent que c'est juste un entraînement.
En galoute.
Où on est en galoute?
En France, on est en galoute.
Donc c'est en fait un problème. C'est un problème de ne pas vivre réellement sa véritable vie au niveau de son identité. Si vous voulez, j'ai des références de Chesed l'Avraham, Ravi Avraham Azoulay, qui dit des choses très, très graves à ce sujet, mais je ne veux pas vous faire peur. Avant Rosh Hashanah. Ken.
Avraham a encore habité cette marée, justement l'inverse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut...
C'est tout simplement parce qu'il n'accepte pas le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une royauté. C'est tout. Il n'appelle pas ça Malchut. Aujourd'hui, on a un problème avec certains. C'est des grands penseurs, je ne mets pas en question leur grandeur de Torah ni rien du tout. Chas v'shalom, attention, hein. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais. Ou tu considères que l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est une royauté, ou bien tu ne considères pas que c'est une royauté, auquel cas tu te dis on est encore en exil partout dans le monde.
Ça reste toujours du débat.
Nachon, mais Baruch HaShem, la plupart des Gdolé Israël, et surtout aujourd'hui, on fait pencher la balance, la preuve c'est que la Torah, toute la Torah maintenant, se trouve sur sa terre. Tous les grands de Torah, la Torah se trouve, il n'y a plus rien en dehors, il n'y a plus de yeshivot en dehors d'Eretz Israël, tout est là, c'est fini, c'est plus même il y a une ou deux yeshivot qui sont avec 200, 300 personnes, c'est pas l'essentiel de la Torah est revenu à la maison. Quoi.
Mais Rav, aux États-Unis, c'est énorme par rapport à
Israël. C'est énorme au niveau de quoi ? De la superficie.
Non, il y a encore 10 ans, il y avait plus de juifs aux États-Unis et plus de.
Tu es en train de me donner raison, tu me dis il y a encore 10 ans, donc aujourd'hui, on est à égalité déjà. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini.
Oui, mais ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans. Donc le temps passe doucement, parce que ça fait mal, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça passe doucement, mais la totalité du peuple d'Israël, cette année, est déjà sur sa terre, Bezrat Hashem. Et malheureusement, peut-être tu ne connais pas les chiffres, mais l'assimilation en exil est de 70 à 75 ou 80%. Donc même si tu crois qu'il y a beaucoup de juifs, là, les juifs que toi, tu en parles, c'est même pas 2% là-bas, malheureusement. La plupart, tu ne les connais même pas. C'est pas ceux qui sont encore habillés en noir. Hein. Parce que là, tu rentres dans une synagogue, tu vas voir 400 juifs, mais il y a 400 000 dehors que tu ne verras jamais. Qui sont déjà mariés avec des goyos, qui ont déjà des enfants qui ne sont pas juifs. Et quoi, c'est pas péché tout ça ? Ken ? Okay. Alors je vais te répondre comme disait Manitou, pour toi elle a déjà de la place, donc tu es là. Baruch HaShem. Et en plus de ça, elle s'appelle Eretz HaTzvi, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à s'élargir d'une manière miraculeuse, comme il est dit dans la Gemara, Me'olam lo amar Adam tsar li hamakom she'alin beYerushalayim. Personne n'a jamais dit j'ai pas de place pour dormir à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a une, étant donné que c'est makom she'eino min amida, c'est-à-dire c'est une place qui ne prend pas une place. Je t'envoie à Masechet Yoma qui parle de Yom HaKippurim pour que tu comprennes comment dans le Bet Amigdash il y avait une notion qui s'allergissait, où tout le monde était serré quand ils étaient debout, et quand ils se prosternaient, il y avait de la place pour tout le monde. Et les Chachamim nous disent que la terre d'Israël a un secret, c'est qu'elle contient beaucoup plus que ce que tu peux, toi, compter avec ton cerveau humain, cartésien. Ken, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'était juste pour Rosh Hashanah, hein, tout ça, on n'a même pas... Ken, vous êtes dans les questions... On va commencer les cours, je pense, après les fêtes, parce que pour l'instant, vous êtes encore dans le passage entre la France et Eretz Israël. Donc, je respecte votre passage. Je passe avec vous.
Pour revenir à Rosh Hashanah, la Teshuvah, l'union en fait, du corps et du gouffre, c'est le gros problème de la Teshuvah.
D'accord. C'est tout simplement ça, la Teshuvah. C'est de faire venir qui vers qui? Non. Mais qui va vers qui? Toi, tais-toi, tu as tout compris, toi. Il a fait, mais... Donc, l'aneshama vers le corps. Et non pas le corps vers l'aneshama. C'est ça, monter le corps au niveau de l'aneshama. C'est permettre à l'aneshama de venir en lui. C'est ça, monter. Tu conduis? Tu n'as jamais conduit une voiture? Quand tu conduiras une voiture, tu verras que de temps en temps, tu es debout comme ça, enfin assis, avec ton volant. Et tu vois une voiture en train d'avancer ou de reculer. Toi, tu as l'impression que c'est toi. Et tu appuies sur le frein comme un fou. Alors que c'est l'autre qui est en train de bouger. Mais c'est exactement pareil. Quand je dis que le corps doit monter au niveau de l'âme, c'est tout simplement permettre à l'âme de descendre au niveau du corps. C'est ça, ça s'appelle monter. Tu es monté en Israël? Oui, tu es monté. Et pourtant, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait? Tu as fait descendre Dieu sur terre. Respectez-le, les mecs. Attention, c'est un tzaddik qui vient de faire descendre Dieu sur terre avec 1,5 kg de plus, grâce à lui.
C'est ça.
C'est ça le Inyan. Il y a d'autres questions ou on vous libère?
Déjà.
Merci pour le compliment. Tov, toda rabba, shana tova, lekulchem.